Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Le président brésilien Jair Bolsonaro, un grand corona sceptique parmi les dirigeants mondiaux, a annoncé hier avoir été testé positif au Covid-19. Il a assuré qu'il allait bien et a continué de minimiser la pandémie qui a fait plus de 65 000 morts dans son pays. Pour sa part, le président américain Donald Trump a lancé officiellement la procédure de retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé qu'il accuse d'avoir tardé à réagir face à la pandémie de coronavirus pour ménager la Chine. Son rival démocrate à la présidentielle de novembre, Joe Biden, promet lui d'annuler cette décision de M. Trump au premier jour de sa présidence en cas de victoire. La barre des 60 000 nouvelles infections au coronavirus recensées aux États-Unis en 24 heures a été franchie hier, selon l'université Johns Hopkins, un niveau record qui porte à près de 3 millions le nombre total de cas détectés. Il y a eu plus de 1100 décès dus au COVID-19 sur le sol américain lors des dernières 24 heures, et 131 362 depuis le début de la crise. Plus de 50 millions d'Africains pourraient basculer dans l'extrême pauvreté en raison des conséquences économiques de l'épidémie, selon la Banque africaine de développement. Entre 24,6 et 30 millions d'emplois seront perdus cette année. Le Nigeria, État très dépendant du secteur pétrolier, et la République démocratique du Congo pourraient être les pays les plus affectés du continent, selon l'ABAD. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a indiqué hier qu'il pourrait nommer au Sénat des candidats malheureux qui briguaient un siège de député aux récentes élections pour tenter de restaurer la stabilité après plusieurs semaines de contestation croissante de son pouvoir. Mais ces candidats déçus ont affirmé à l'AFP qu'ils n'étaient pas intéressés par un siège de sénateur. Human Rights Watch a dénoncé ce mercredi des exécutions extrajudiciaires de 180 personnes ces derniers mois à Gibo, dans le nord du Burkina Faso, et impliquant, dit-on, des forces armées burkinabées. Selon les témoignages d'habitants, la majorité des victimes, dont les corps ont été découverts dans des fosses communes, étaient des hommes appartenant aux ethnies Fulani ou Peul, parmi lesquels les groupes djihadistes qui ensanglantent le Burkina Faso depuis 5 ans, recrutent principalement. En réaction à ces allégations, le gouvernement burkinabé s'est engagé à ouvrir une enquête. Ces exécutions, explique-t-il, ont pu être commises par les groupes armés, c'est-à-dire djihadistes, en utilisant des uniformes et moyens logistiques de l'armée volés lors d'attaques, selon Human Rights Watch. En République démocratique du Congo, une centaine de personnes sont mortes depuis le début de l'année dans les violences oubliées du Tanganyika dans le sud-est du pays, dont 18 ces derniers jours dans une zone minière selon des sources locales et les Nations Unies. Ce mardi, le ministre de l'Intérieur de la province du Tanganyika a indiqué que 12 civils et 6 assaillants avaient été tués lors de l'attaque du groupe armé Apanapale dans la région minière de Mugunga au centre de la province. Le groupe est accusé d'avoir utilisé des toits ou pygmées dans ses attaques ciblant essentiellement des sites d'exploitation artisanale de l'or. En Mauritanie, la police a arrêté récemment une employée de la banque centrale et plusieurs complices présumés soupçonnés d'avoir détourné plus d'un million d'euros de l'institution, a-t-on appris de sources bancaires et proches de l'enquête. Aucune information n'a été fournie sur la manière dont le détournement aurait été opéré. Les attributions de l'employé elle-même sont restées floues. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie Idrissa Seydoudia. Restez à l'écoute. La suite de nos informations. En République démocratique du Congo, trois mouvements distincts ont lancé des appels à manifester contre le choix du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Le point avec Nani Talani.
L'UDPS, le parti du président Félix Tshisekedi, a appelé ses partisans à manifester demain jeudi à Kinshasa. L'Assemblée nationale a entériné le choix de Ronsard Malunda comme futur président de la CENI et cette nomination doit être validée par le chef de l'État. La coalition d'opposition Lamuka aussi a appelé hier à manifester le lundi 13 juillet dans le strict respect des gestes barrières. Les leaders de Lamuka accusent Ronsard Malunda, secrétaire exécutif de la CENI, d'avoir contribué à tous les hold-up électoraux depuis 2006. Enfin, le comité laïque de coordination, proche des catholiques et des mouvements citoyens, ont appelé pour le 19 juillet à une grande marche pacifique. L'état d'urgence sanitaire face au COVID-19 a été prolongé pour la sixième fois lundi pour 15 jours. C'est dire que les rassemblements de plus de 20 personnes sont normalement interdits.
Au Kenya, des dizaines de personnes ont été arrêtées hier lors d'une manifestation contre les brutalités policières à Nairobi. Les rassemblements publics sont interdits et la capitale est sous couvre-feu pour éviter la propagation du coronavirus, Nathalie Barge.
La marche a été organisée pour commémorer le Sabbat, le septième jour du septième mois, 30 ans après les manifestations du 7 juillet 1990 pour des élections libres sous Daniel Arap Moi. Hier, la police a dispersé des rassemblements avec des gaz lacrymogènes et au moins 57 personnes ont été placées en garde à vue. Le chef de la police de Nairobi, Philippe Ndolo, a dit que les rassemblements étaient illégaux à cause des restrictions imposées pour lutter contre le coronavirus. Ces violations sont passibles d'une amende de $47 ou de travaux d'intérêt général. La police kényane est régulièrement accusée d'utilisation excessive de la force et d'exécution extrajudiciaire. Depuis la mise en place du couvre-feu, elle a été impliquée dans la mort d'au moins 15 personnes, selon l'autorité indépendante de contrôle de la police.
Au Zimbabwe, 11 infirmiers et infirmières arrêtés lundi lors d'une manifestation devant un hôpital de Harare ont été inculpés hier et remis en liberté sous caution. Le point avec Ekia Badou.
Tous seront jugés pour avoir violé les mesures de prévention contre le COVID-19 en participant à un rassemblement non autorisé, a indiqué Kumbire Mafunda de l'ONG Avocat pour les droits humains. À l'exception de l'un d'eux, ils ont été remis en liberté contre une caution de $1000 zimbabwéens, environ $17 américains, a précisé l'avocat. Ce mouvement des infirmiers intervient en pleine pandémie de COVID-19 avec plus de 700 cas recensés, dont 8 morts. Les manifestants ont été interpellés lundi devant un hôpital de Harare. Ils étaient rassemblés pour exiger le paiement de leur salaire en billets verts. Un infirmier en moyenne gagne $30 à $40 américains, c'est-à-dire moins de 20 000 francs CFA. Le Zimbabwe est plongé dans une grave crise économique et depuis 2 ans, la situation a empiré avec des pénuries en tout genre, liquidité, carburant, denrées et électricité, sur fond d'inflation galopante et de dépréciation continue du dollar zimbabwéen.
La Minute Éco, Nani Talani.
En Afrique du Sud, la Banque centrale a émis une garantie de $200 millions pour renflouer une branche d'investissement gouvernemental frappée par une forte augmentation des défauts de paiement. La garantie devrait couvrir les pertes pendant la période 2019-2020 et reconstituer les réserves qui sont tombées à zéro. Ce renflouement ajoute une pression supplémentaire sur les finances publiques qui soutiennent déjà la compagnie d'électricité et la compagnie aérienne qui sont déjà au bord de la faillite. Au Zimbabwe, Londela Mining a redémarré ses activités dans sa mine d'or de Shamva, qu'elle a achetée à Metalland Corporation, propriété d'un homme d'affaires sud-africain. Londela Mining, qui appartient majoritairement à Tagwirei, conseiller du président Emerson Nangangwa, est aussi en pourparlers pour acheter les 3 autres mines d'or de Metalland. Jusqu'en 2017, Metalland était le plus grand exploitant d'or du Zimbabwe et produisait 100 000 onces par an. Terminant par la Zambie, où Konkola Mining a fermé une partie de sa mine de cuivre à ciel ouvert de Nshanga à Shingula, car elle pourrait s'effondrer à tout moment. Le marécage ou effondrement du sol s'est manifesté par l'ouverture de fissures sur environ 350 mètres et le volume estimé de la zone concernée est de 8 millions de mètres cubes. Concola a pris des mesures pour protéger les employés et les communautés autour de la zone minière.
L'espoir à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. 5 joueurs du Nashville SC ont été déclarés positifs au Covid-19, entraînant le report du match d'ouverture du club dans le tournoi de reprise de la Ligue nord-américaine de football. Le Nashville SC devait affronter ce soir le Chicago Fire. Le club a précisé que tous les cas sont apparus après l'arrivée de l'équipe à Orlando, en Floride, où 26 équipes sont basées pour le tournoi MLS Is Back. Les examens de 4 autres joueurs se sont révélés non concluants et nécessiteront davantage de tests, a déclaré l'équipe. Il s'agit d'un autre coup dur porté à la reprise de la MLS. Hier, le FC Dallas a dû se retirer du tournoi. 11 membres du club, 10 joueurs et un encadrant ayant été testés positifs au nouveau coronavirus. Le meilleur joueur de la saison dernière, Carlos Vela, ne fera quant à lui pas le voyage avec son équipe du Los Angeles FC. La MLS, suspendue après 2 journées à la mi-mars, reprend sous un format similaire à la Coupe du Monde avec phase de groupe et élimination directe à Disney World en Floride. Et puis, Salomon Kalou quitte le Hertha Berlin. L'annonce a été faite par le club allemand qui a cité les noms de plusieurs autres joueurs concernés. En dehors de l'attaquant ivoirien, il s'agit de Marco Grujic, Thomas Kraft, Alexander Eswine, Per Schlegbert et Marius Wolf. Pour l'attaquant ivoirien de 34 ans arrivé dans la capitale allemande il y a 6 ans, c'est une fin sur une fausse note. Salomon Kalou s'était en effet illustré en ne respectant pas les règles sanitaires lors du confinement ou encore en choquant avec des propos sur son salaire qui lui ont valu une suspension jusqu'à la fin de saison par son club. Avec 53 buts, le buteur ivoirien a tenu à remercier le club. « J'ai passé un moment fantastique au Hertha avec de super coéquipiers, managers et supporters que je respecte beaucoup. Je suis pourtant très désolé pour ce qui s'est passé à la fin. Cette fin ne reflète pas du tout mon passage au Hertha », a déclaré Salomon Kalou. En Espagne, prolonger le contrat de Lionel Messi est une obligation pour le FC Barcelone. C'est ce qu'a déclaré son président Josef Maria Bartomeu. L'idée de Messi est de finir son contrat en 2021 et d'abandonner le FC Barcelone. Messi a gelé la prolongation de son contrat, a rapporté lundi la radio espagnole Cadena Ser, qui a expliqué que la Pulga est lassée de ne pas voir arriver un projet gagnant. « Je le sens serein, il a souvent dit qu'il veut prendre sa retraite au Barça », a tempéré Bartomeu. Le président du Barça a aussi soutenu que l'entraîneur Quique Setién, engagé le 12 janvier en remplacement d'Ernesto Valverde, va rester en poste la saison prochaine.
Mandia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la relance du tourisme 6 mois après le début de la pandémie de Covid-19. L'Union africaine a indiqué la semaine dernière que le continent avait perdu 55 milliards de dollars en revenus touristiques alors que le secteur représente 10% du PIB et fournit plus de 24 millions d'emplois. La reprise annoncée des vols internationaux par plusieurs pays aidera-t-elle à la relance du secteur ? Comment assurer une reprise des activités touristiques en minimisant les risques sanitaires ? Nous ferons le point avec nos invités ce jeudi 9 juillet 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show. VOA, vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, les médias et des lanceurs d'alerte font état de négociations entre le gouvernement et des leaders séparatistes anglophones en détention. Des négociations qui viseraient à obtenir un cessez-le-feu dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, théâtre d'un sanglant conflit armé depuis 4 ans. Le ministre de la Communication a réagi par un communiqué. Sans démentir la tenue des discussions, il affirme que les informations propagées sur les réseaux sociaux ne sont pas conformes à la réalité. Mohamedou Humfa a joint à Douala le journaliste Edmond Kamgia, éditorialiste de la chaîne de télévision Equinox.
Le gouvernement camerounais a tout intérêt à faire ce qu'il a fait le jeudi 2 juillet dernier en Bolé à Yaoundé, c'est-à-dire rencontrer les leaders sécessionnistes pour déblayer le terrain et commencer la prise de contact en vue d'obtenir un cessez-le-feu. Le gouvernement a d'autant intérêt à rencontrer les leaders sécessionnistes que l'ONU, à travers le Conseil de sécurité, vient d'adopter à l'unanimité une résolution qui amène les États partout où il y a les conflits, et notamment les parties prenantes, à trouver une pause humanitaire de 90 jours consécutifs qui permettrait, pendant cette période-là, de faciliter l'aide humanitaire et notamment de permettre de mieux lutter de manière efficace contre le coronavirus.
Alors, sans démentir les négociations avec les séparatistes, le gouvernement fait savoir que les informations diffusées sur les réseaux sociaux ne sont pas conformes à la réalité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là?
Effectivement, il ne nie pas la tenue de la rencontre, mais il conteste les informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Et je crois savoir que lorsque le gouvernement réagit ainsi, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec une certaine perception que certains leaders socialistes ont donnée au contenu de la rencontre dans leurs différentes publications. Parce que si je m'en tiens à Sissoko Tabé, qui était la tête de file de l'idée sécessionniste, il rend compte de la situation et dit même qu'ils ont formulé des conditions et des revendications allant dans le sens de la revendication de la République d'Ambazonie, c'est-à-dire la sécession. Or, le gouvernement ne veut pas laisser entendre ni faire croire que la discussion a porté sur la sécession. Parce que le gouvernement a toujours été clair qu'ils sont prêts à discuter de tout sauf de la sécession.
Donc pour vous, le gouvernement n'a pas véritablement intérêt à communiquer autour de ces négociations qui sont pour le moment secrètes.
Mon avis est que le gouvernement a intérêt à communiquer sur ce qui est en train de se passer. Parce que le silence ou l'absence de communication renforcerait le doute sur la volonté réelle du gouvernement à avoir le souci de parvenir à une résolution pacifique de la crise anglophone. Le gouvernement a intérêt à communiquer pour montrer sa bonne foi et sa sincérité dans le contexte actuel. Parce qu'il a toujours été accusé de ne pas vouloir discuter avec les sécessionnistes. Rappelons-nous, à un moment donné, le gouvernement disait qu'il ne discute pas avec les terroristes. Or, Ayoub Tabé et ses camarades ont été condamnés pour terrorisme, condamnés à vie. Aujourd'hui, ils sont contraints de discuter avec eux. Ils ont intérêt à communiquer là-dessus pour montrer à la communauté nationale, davantage à la communauté internationale, qu'ils ont la volonté de parvenir à un cessez-le-feu. Or, c'est ce cessez-le-feu que le secrétaire général de l'ONU, depuis le mois de mars dernier, appelle l'ensemble des États à travers le monde où il y a les conflits de parvenir.
Le journaliste Edmond Kamgia, éditorialiste de la chaîne de télévision Equinox, joint à Douala.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Tchad, les autorités du ministère en charge de la formation professionnelle, en collaboration avec les partenaires, veulent moderniser la vente de poissons frais. Environ une centaine de vendeuses sont en formation sur les techniques de conservation et de commercialisation du poisson, considéré comme un produit de luxe pour bon nombre de ménages. De Nyamena, notre correspondant André Kotmajingar.
Au pays des grillades de viande de bœuf et de chameau, l'idée de moderniser la vente de poissons arrive au moment où la principale source de production, le lac Tchad, se déchaîne sous les effets du changement climatique. Il faut réorganiser le secteur en formant les vendeuses.
Auparavant, nous ne savons comment conserver nos poissons. Nos poissons sont restés seulement à l'air libre. Je crois que c'est une bonne chose pour nous, pour développer notre commerce.
Ils ont déjà construit les deux marchés modernes, mais c'est mal construit. Est-ce qu'on a travaillé avec même depuis qu'ils ont fait ça?
On n'a pas les matériel pour conserver parce qu'on n'a pas de congélateur. On expose le poisson au soleil. Parfois, les mouches viennent tenir les poissons et ça laisse des microbes. Quand les consommateurs viennent voir les mouches sur les poissons comme ça, ils n'ont pas envie d'acheter avec nous. Et parfois, la chaleur même nous rend malade et le poisson pourrit rend aussi malade les consommateurs.
Pour le conseiller technique du ministère en charge de la formation professionnelle et du petit métier, Bada Ikelkoussi, la réorganisation de ce secteur aura un impact économique. Puisque, précise-t-il, des kits mobiles pour une bonne conservation du poisson seront distribués à ces femmes.
Avec les chariots que les femmes vont avoir à la fin de la formation, comme on va leur aussi apprendre la notion de la commercialisation, elles peuvent être mobiles, cibler des clients privilégiés par carré ou bien par recoin, qui à un moment donné même peut l'appeler directement, madame, nous sommes en fête ou bien la famille a besoin de telle qualité de poisson bien conservée.
Parmi les vendeuses de poissons, il y a des veuves et celles qui doivent nourrir et éduquer des enfants. Elles rencontrent toutes d'énormes difficultés. Fihil Agoui est la présidente de l'Union des organisations de femmes vendeuses de poissons du Tchad.
Au niveau de notre marché moderne de Viadip, on nous a construit même la chambre froide pour conserver nos poissons. Mais ces chambres froides ne fonctionnent pas. Faute de la capacité des groupes, on devait nous installer le groupe qui a 250 cabias, mais ils ont installé un groupe qui a 110 cabias. Depuis quand on nous a donné la clé de ce marché, 2016, les chambres froides ne fonctionnent pas.
Pour Badaï Gelkoussi, conseiller technique du ministère en charge de la formation professionnelle, les kits mobiles de conservation qui seront donnés à ces femmes seront une solution à ce problème.
Quand bien même son excellence, le président de la République, tape même sur la table pour dire qu'il faudrait qu'il y ait de l'électricité en permanence. Mais les efforts que les techniciens de la Société nationale d'électricité font, nous remarquons toujours que ce n'est pas toujours le souhait ou le vœu de la population dans son ensemble. C'est comme ça que ce kit-là, comme c'est un genre frigo mobile, ça pourrait aider nos femmes à nous vendre des poissons de meilleure qualité.
Le projet d'appui aux femmes vendeuses de poissons dans la ville de N'Djamena date de 2019. 100 vendeuses de poissons, dont 10 par arrondissement de la ville de N'Djamena, sont ciblées pour cette formation. André Kodmadjingar N'Djamena pour VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
L'administration Trump s'apprête à demander aux étudiants étrangers de quitter les États-Unis au risque d'être expulsés si leurs écoles optent pour des cours en ligne uniquement en raison de la pandémie de COVID-19. Cette décision pourrait affecter des milliers d'étudiants étrangers, notamment africains, qui viennent aux États-Unis pour étudier dans des universités ou participer à des programmes de formation. Écoutez au micro de Bagassi Koura la réaction de Kenzi Pukuta, un ancien étudiant originaire du Congo-Brazzaville.
Honnêtement, c'est très triste. C'est triste pour mes frères et sœurs africains et tout le monde qui est venu ici internationalement pour des études, en fait. Moi, j'ai l'opportunité d'avoir un passeport américain et j'ai la chance, mais pour mes frères et sœurs africains, ils ne méritent pas cette décision. Je ne pense pas qu'ils méritent cette décision, tout simplement parce que ils sont pas des États-Unis et ils ne veulent pas prendre des risques, tu vois, de partir à l'école physiquement.
Vous avez échangé avec certains d'entre eux, certains des étudiants, certains de vos camarades. Qu'est-ce qu'ils disent?
Bon, eux, ils ont peur parce que pour eux, ils doivent faire un choix. Soit ils prennent des risques de contracter le virus. La majorité de mes amis prennent le transport public, le métro ici à Washington DC. Soit ils prennent le métro 3 ou 4 fois par jour. Ils prennent le risque de peut-être infecter leur famille qui peut-être ont des problèmes de santé à la maison. Ou ils sont déportés parce qu'ils ne veulent pas voyager pendant cette COVID-19. Donc c'est un peu bizarre parce que nous, comme des étudiants, on nous avait dit que cette COVID-19 est très sérieux, de rester à la maison, de porter des masques.
Ils disent que ces étudiants africains peuvent retourner dans leur pays et suivre les cours en ligne.
Bon, je me demande pourquoi rencontrer dans leur propre pays. Quand nous, on a des États ici, comme le Texas, Floride, la Californie, New York, comment infecter? Et je me demande, est-ce que quelqu'un qui vient de l'Afrique pose risque différent qu'une personne qui habite en Floride? Je me demande, est-ce que ma collègue de l'Amérique du Sud pose un risque plus élevé que mes collègues de Texas ou Californie? Mmh. Honnêtement, si tu parles avec des professionnels de la santé, c'est il n'y a pas beaucoup de sens avec cette décision.
Kenzie Pukuta, ancien étudiant originaire du Congo-Brazzaville, joint ici à Washington.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La pandémie de coronavirus frappe de manière disproportionnée les Amérindiens, une des communautés les plus pauvres des États-Unis. Dans leurs réserves, le taux de chômage reste très élevé. La combinaison de ces facteurs rend la vie encore plus difficile, en particulier pour les Navajo. Sur les 175 000 habitants de la réserve Navajo de Monument Valley, près de 8 000 ont été testés positifs au COVID-19. Reportage de Julie Tabo, repris ici par Lionel Gahima.
À cheval sur l'Arizona et l'Utah, Monument Valley est connu pour ses rochers rendus célèbres par de nombreux films western. C'est le plus grand territoire amérindien des États-Unis. Mais le parc est maintenant vide et son accès est interdit. Jonathan Nez est président de la communauté Navajo.
Chaque année, à cette période, il y a des milliers et des milliers de visiteurs par jour. Mais à cause de la pandémie, tous les sites touristiques sont fermés.
Souffrant de la perte de revenus touristiques, les habitants font la queue à l'entrée du parc, espérant récupérer des dons, de l'eau, de la nourriture et des produits de nettoyage. Pour Jonathan Nez, le gouvernement américain a mis du temps pour envoyer les fonds fédéraux.
La loi CARES visait à soulager tous les citoyens américains à travers le pays. Mais les premiers citoyens de ce pays, de cette terre, n'ont pas reçu d'attention immédiate.
Le peuple Navajo est durement touché par la pandémie de COVID-19, enregistrant le taux de contamination le plus élevé du pays. Mais dans ce petit dispensaire, seul un médecin est de garde. Le docteur Wunderke fait ses consultations dehors sur un parking. Une patiente, Dolly Crank, a été testée positive au coronavirus.
J'ai appelé ce matin parce que je ne me sentais pas bien. Ma toux a commencé à empirer, j'avais du mal à respirer, j'étais essoufflée.
Le docteur Wunderke évoque quelques problèmes de santé dans la région.
Nous avons une population à risque à cause du diabète, des maladies cardiaques, de l'obésité. Et dans les maisons, il y a très peu d'espace et beaucoup de gens y vivent ensemble.
Dans ce vaste territoire semi-autonome, au moins 30% des habitants n'ont pas d'eau courante. De nombreuses familles dépendent des stations d'eau publique. À chaque voyage, Amanda Larson et ses trois enfants remplissent une douzaine de grosses bouteilles. Ensuite, elle doit rationner l'eau pour la cuisine, laver les habits et laver ses enfants.
J'aimerais que mes enfants se lavent au moins tous les deux jours. Mais avec la pandémie, il faut se laver tous les jours. Venir ici, pour moi, c'est gênant. C'est dégradant, surtout pour mes enfants.
La pandémie est aussi un défi pour la transmission de l'histoire orale des Amérindiens. Gardiennes de la tradition, les personnes âgées de la communauté sont aussi les plus vulnérables. Les familles Navajo chantent et prient pour protéger leurs aînés et restent confinées chez eux, au milieu des grands espaces de l'ouest des États-Unis.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.